Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau vous informe sur Europe 1.
Les réseaux sociaux et Recep Tayyip Erdogan, ça sera juste après votre journal. Bonsoir Hélène Zélani.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Il est 19h. Et cette fois-ci, c'est la dernier match de la star des cours de tennis, Roger Federer, un double avec Nadal pour partenaire.
Nous serons à Londres, où certains ont payé très très cher pour assister à cette rencontre. La crise énergétique qui frappe les agriculteurs, vous entendrez le cri de colère d'un producteur d'endives dont la facture d'électricité s'envole. Dans ce journal, une cinquantaine d'arrestations liées aux incendies de l'été, 30% sont des pyromanes. Et puis, quand une star rencontre un chef d'État, ça donne un dialogue surprenant entre Alain Delon et le président ukrainien Zelensky.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, changement radical de temps demain sur tout le pays. Retour des pluies, des averses, des orages dans le sud-est et dans le nord.
Merci Valérie. Enfin, merci. À tout à l'heure en fin de journal. C'est peut-être le dernier jour du reste de sa vie. Roger Federer tire sa révérence ce soir.
Oui, le champion suisse aux 157 finales et 20 titres en Grand Chelem met fin à une carrière exceptionnelle. Federer va jouer en double avec son éternel rival Rafael Nadal au sein de l'équipe européenne de Laver Cup. Cédric Chasseur, vous êtes en direct de Londres. L'émotion sera très forte sur le court, mais aussi dans les gradins.
Ouais, il suffit d'entendre l'ovation du public cet après-midi à la présentation des équipes pour comprendre que ce match n'est pas un match comme les autres.
It's the Swiss maestro Roger Federer.
Ah, vous l'entendez, il y a un mélange d'excitation folle et de mélancolie aussi qui s'empare de chaque fan à l'évocation du nom de Roger Federer. Masha, par exemple, a fait le déplacement depuis les États-Unis pour voir son idole.
J'ai acheté ces billets 6 mois avant que Roger Federer annonce sa retraite. Je me sens tellement privilégiée d'être ici pour le voir jouer encore une fois, mais cela me rend triste de savoir que je ne le reverrai plus jamais sur un court.
Une émotion partagée par Philippe, venu de Biarritz avec des amis fans comme lui de Roger Federer.
On espérait le voir déjà, puisqu'il était en arrêt. Et là, effectivement, aujourd'hui, on sait que c'est sa dernière, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions.
Et qui dit émotion dit larmes qui risquent de couler ce soir sur et en dehors du court. Lynn, une Québécoise, peine déjà à retenir les siennes.
Ça reste quand même que c'est un des plus grands joueurs, sinon le plus grand joueur de tous les temps. Je pense que ça va être touchant de voir ça. Et j'espère que ça va être un grand match aussi de tennis. Et voilà.
Et certains étaient prêts à débourser une fortune sur le marché noir pour voir jouer le maestro. Certains tickets valaient aujourd'hui 61 000 euros pour voir la dernière apparition de Roger Federer sur un court.
Oui, quand même. Hein. Cédric Chasseur, en direct de Londres, où vous allez nous faire vivre cette rencontre tout à l'heure en fil rouge dans Europe 1 Sport.
61 000 euros, il faut qu'il gagne, hein, parce que sinon, on n'en a pas pour son argent. Allez, on passe à la crise énergétique. Plus que jamais au cœur de l'actualité, ce soir, on se penche sur la situation critique de certains agriculteurs.
Oui, des producteurs de fruits et légumes dont la facture d'électricité va tellement augmenter que ça ne vaudra même plus la peine de travailler. Hervé Persin est producteur d'endives dans les Hauts-de-France. Il était l'invité d'Europe Midi.
En 2021, on a payé 100 000 euros d'électricité. Cette année, je vais payer pas loin de 200 000 euros. Et aujourd'hui, la proposition que j'ai, c'est 750 000 euros par an, à condition de signer pour 3 ans. C'est-à-dire qu'on me demande de verser 2,2 millions d'euros à mon fournisseur d'énergie. Pour ma part, j'aurais vendu ma maison pour payer l'électricité avant la fin des 3 ans. Mon grand-père faisait des endives en 1948. Aujourd'hui, mon fils devait revenir sur l'exploitation. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je peux me permettre de le rendre esclave des fournisseurs d'énergie? Je ne pense pas. On a besoin d'une aide de l'État pour nous aider à payer notre facture de courant. Ça ne sera pas possible autrement. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est mes salariés. Pendant tout le Covid, on nous a dit « vous devez bosser, vous devez nourrir les Français ». Tous mes salariés sont venus. Pendant que tout le monde était peinard chez lui et pendant que tout le monde touchait des aides, eux, ils continuent à cotiser. Je ne peux pas leur dire aujourd'hui, je suis désolé, vous allez tous perdre votre emploi parce que vous êtes arrivé une crise trop tard.
L'émotion d'un producteur d'endives hein, au micro de Romain Desarbres dans Europe Midi.
Ouais, on espère que ce monsieur Hervé Persin a entendu Emmanuel Macron hein, hier qui lançait un appel aux PME ne pas signer de contrat d'énergie à des prix fous.
Oui, c'est son expression. Il a promis des négociations, notamment au niveau européen, pour des prix plus raisonnables. Margot Fodéré, Qu'est-ce que les entreprises peuvent attendre dans les semaines qui viennent ?
Alors, ça se passe à deux niveaux. Le premier, européen. Les ministres de l'énergie vont se réunir le 30 septembre prochain pour essayer de s'accorder sur des mesures exceptionnelles d'aide face à la crise énergétique. Cela pourrait permettre au gouvernement de débloquer des fonds pour les entreprises. Deuxième niveau, en France. À partir du 1er octobre, les entreprises dont la facture d'énergie représente au moins 3% de leur chiffre d'affaires et qui enregistrent des pertes à cause de la crise pourront toucher une aide allant jusqu'à 2 millions d'euros dès le premier mois de perte. Et cette aide sera même rétroactive. Rappelons aussi que toutes les entreprises de moins de 10 salariés qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros sont éligibles au bouclier tarifaire. Et puis dernière mesure, pour celles dont la trésorerie est affaiblie par la guerre en Ukraine, elles peuvent toujours demander un prêt garanti par l'État jusqu'à la fin de l'année.
Margot Faudéré, puisqu'on parle du prix de l'énergie, la sobriété se concrétise dès ce soir à Paris. L'Hôtel de Ville, la Tour Saint-Jacques, les 14 musées municipaux et les mairies d'arrondissement éteignent les éclairages à 22h. Idem pour la Tour Eiffel, extinction des feux à 23h45. De son côté, la région Grand Est va investir 450 millions d'euros sur 4 ans pour améliorer la sobriété énergétique de ses lycées.
Alors, est-ce qu'ils ont parlé de crise énergétique ou de retraite ou des deux, Emmanuel Macron, en tout cas, déjeuner avec Elisabeth Borne à l'Élysée.
Lors de cet échange, le président et la première ministre ont vraisemblablement tranché la question de faire passer en force ou pas la réforme des retraites. Rien n'a filtré de leur discussion, Jacques Serret. Mais une chose est sûre, faire passer cette réforme via le PLFSS qui sera présenté lundi en Conseil des ministres, eh bien, c'est très compromis.
Oui, alors qu'il était à New York, à l'ONU, cette semaine, Emmanuel Macron avait laissé le soin à Elisabeth Borne de prendre le pouls de la représentation nationale. Et force est de constater que l'exécutif se retrouve face à un mur, des insoumis aux socialistes, en passant par les Républicains ou le Front National, tous sont opposés à un passage en force de la réforme des retraites contre la voie de l'amendement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, même au sein de sa propre majorité. La première ministre doit faire face à un vent de fronde. Le Modem, 49 députés dans l'hémicycle, pourtant allié historique des marcheurs, se montre plus que réticent. La position des députés Mouvement démocrate serait certainement de voter contre, a fait savoir Jean-Paul Mattei, leur représentant. Et ce son de cloche, elle-même, jusque dans les rangs d'une partie des élus Renaissance, jusqu'au perchoir, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, quatrième personnage de l'État, s'est elle-même déclarée pas favorable à une réforme par amendement, appelant le gouvernement à prendre le temps de la concertation. Emmanuel Macron avait redit sa volonté de voir la réforme effective d'ici à l'été 2023. Elisabeth Borne devrait calmer ses ardeurs, à moins que le locataire de l'Élysée soit décidé à y aller, quoi qu'il en coûte.
Jacques Serret, du service politique d'Europe 1. Il dénonce les criminels climatiques des ultra-riches qui utilisent les jets privés. Des militants d'attaque et d'extinction rébellion ont bloqué un terminal de l'aéroport d'affaires du Bourget. Un jet peut émettre en 5 heures la quantité de CO2 d'un Français moyen pendant toute une année. La politique, décidément, le sujet des violences faites aux femmes empoisonne la France insoumise. Le député Manuel Bompard, proche de Jean-Luc Mélenchon, a estimé sur CNews qu'une gifle n'était pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Critiqué de toutes parts, Manuel Bompard a tenté de se justifier dans un communiqué. Je n'ai jamais dit ni pensé qu'une gifle n'était pas grave. Je rappelle seulement des principes fondamentaux en droit, la proportionnalité et l'individualisation des peines. Fin de citation.
19h08 sur Europe 1, dans un instant, le bilan de la gendarmerie après les violents incendies de cet été. Près de 50 personnes ont été arrêtées. A tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve. La suite du journal d'Hélène Zélani sur Europe 1. Personne n'a oublié les terribles images des incendies de forêt cet été dans le sud-ouest. La gendarmerie vient de présenter un bilan de son action.
Oui, une cinquantaine de personnes arrêtées, 12 déjà condamnées. Guillaume Dominguez, que sait-on de leur profil et de la manière dont on les a interpellées ?
Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque départ de feu entraîne immédiatement l'ouverture d'une enquête judiciaire. Cet été, 43 dossiers ont été traités par la gendarmerie et dans près d'un tiers des cas, l'incendie était volontaire, voire prémédité, orchestré par des auteurs au profil très varié, d'âge et de milieux sociaux très différents. Leur seul point en commun, c'est que ce sont majoritairement des hommes. Leurs identifications s'est faites grâce à une enquête minutieuse. Une fois le feu éteint, ce sont les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie qui se sont rendus sur place. Ce sont eux qui sont en charge de déterminer l'origine du feu, comme nous l'explique le lieutenant-colonel Marie-Laure Pesant, porte-parole de la gendarmerie nationale, grâce à la technique dite de l'escargot.
Nos techniciens en identification criminelle identifient la zone de départ du feu et ensuite on va élargir le cercle, un peu comme la coquille d'escargot. On sanctuarise une zone. Ce gel de zone permet de préserver les traces et indices. Ça peut être par exemple un tesson de bouteille, un mégot de cigarette ou des allumettes qui vont nous permettre de savoir s'il y a une intervention humaine.
Des indices qui parfois révèlent même des traces d'ADN. C'est ce qui s'est produit fin juillet près de la ville d'Orange dans le Vaucluse. L'auteur d'un départ de feu a été identifié grâce à l'analyse d'un mégot de cigarette. Et quand l'ADN ne parle pas, ce sont bien souvent les appels à témoins et la vidéosurveillance qui permettent d'identifier les responsables. Dans les Pyrénées-Orientales, les gendarmes ont pu rapidement retrouver un jeune homme à l'origine de deux départs de feu. Sa voiture avait été repérée par des voisins quelques minutes avant le début des deux incendies.
Guillaume Dominguez, c'est une information Europe 1. Les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont nettement augmenté depuis janvier, plus 20% entre le début de l'année et le mois d'août.
On en parlait dans la semaine politique, la Russie tente de reprendre la main en Ukraine, 300 000 réservistes rappelés et à partir d'aujourd'hui, eh bien, c'est référendum d'annexion dans quatre régions.
Oui, jusqu'à mardi, les habitants des zones d'Ukraine contrôlées par Moscou doivent se prononcer, notamment via du porte-à-porte, des scrutins sans aucune valeur selon la communauté internationale. À Izioum, ville récemment libérée, 436 cadavres ont été exhumés, 30 présentent des signes de torture. Aujourd'hui, une commission d'enquête de l'ONU a reconnu que des crimes de guerre avaient bien été commis en Ukraine. Dans ce contexte, écoutez un extrait d'un dialogue pour le moins surprenant. D'un côté, le président ukrainien Zelensky en visioconférence et de l'autre, Alain Delon.
Je n'ai jamais été un acteur aussi génial que vous.
Je ne serai jamais un président aussi génial que vous, aussi méritant que vous. Jamais.
C'est très important pour nous aujourd'hui. Lorsque les gens célèbrent, s'engagent, ils peuvent réellement aider, car la parole est une arme et parfois frappe plus fort qu'une arme réelle sur un champ de bataille.
Je vous en prie, c'est tout à fait normal, c'est le minimum que je puisse faire, parce que je pouvais faire plus que ça, je ferai plus que ça. Parce que vous ne méritez pas tout ce que vous vivez, vous ne méritez pas ce que vit l'Ukraine en ce moment et ce que vit votre peuple. Ce peuple qui crève, de ses enfants qui meurent, ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte.
Des extraits choisis par Marie Jiquel et diffusés sur TV5 Monde. Le président Zelensky a invité Alain Delon à venir à Kiev. L'acteur de 86 ans a dit oui quand il aura moins besoin de Cannes pour se déplacer. Les marchés financiers maintenant avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir.
Bonsoir.
Forte baisse à Paris. Hein.
Oui, ça va pas fort. Fin de semaine très difficile sur les marchés. Le CAC 40 chute de 2,28%. 5783 points. C'est son plus bas niveau depuis mars 2021. Sur la semaine, cela porte la baisse du CAC 40 à 5% et même à 18% depuis le 1er janvier. Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets. La crise énergétique mêlée à la hausse des taux en raison de l'inflation plombe surtout les valeurs industrielles. Forestia chute de 11%, Valeo de 10%, Renault perd ce soir 7%. Il y a un seul gagnant, c'est le dollar, valeur refuge, au plus haut depuis 20 ans. 0,97 face à l'euro. Même le pétrole rechute ce soir sous les 80 dollars le baril. Ailleurs en Europe, c'est pareil. La bourse de Francfort chute encore de 2%. Madrid perd 2,4%. Milan moins 3,3% avec la dimension politique en plus. On rappelle le CAC 40 en baisse de 2,28%. 5783 points.
Merci Didier.
Et merci à vous Hélène Zellani pour ce journal de 19h, le ciel. Valérie Darmon, attention aux intempéries dans le sud-est.
Et oui, c'est sur le sud-est que le temps va se dégrader nettement ce week-end. Les fortes précipitations localement orageuses vont se décaler vers la région PACA en matinée jusqu'en fin d'après-midi, où elles vont cesser peu à peu avec le retour des éclaircies et les cumuls pourraient être importants, notamment sur la Corse en soirée. C'est pas mieux ailleurs. Hein. Le nord-ouest de la France connaît également une activité pluvieuse marquée. Sur l'ouest des Hauts-de-France et sur la Normandie, le ciel couvert apporte des précipitations soutenues pouvant prendre un caractère orageux. Aucune région quasiment n'échappe aux averses. Elles sont plus nombreuses ces averses sur la façade est le matin, sur le sud-ouest en particulier le Pays Basque et les Pyrénées l'après-midi. Les maximales qui baissent avec 16 à 21 degrés en général et jusqu'à 25 près de la Méditerranée et en vallée du Rhône.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, nos vendredis thématiques avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait justement devant leur puissance? À tout de suite.